Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir notre quatrième rencontre pour savoir quelles sont les nouvelles du vivant aujourd'hui. Matière à penser, quelle nouvelle du vivant. Le vivant est aujourd'hui partout, sous toutes ses formes, dans la science, dans la politique, dans l'environnement. Il est aussi dans l'imaginaire humain, dans la littérature, dans la philosophie. C'est dans ce sens-là que nous recherchons cette semaine des nouvelles du vivant. Aujourd'hui avec Frédéric Weinmann, professeur d'allemand en classe préparatoire et auteur d'un livre au titre entre guillemets « Je suis mort ». Bonsoir Frédéric Weinmann.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venu ce soir sur France Culture dans Matière
c'est
à penser.
Je vous remercie.
Le titre de votre livre que je viens de citer, Frédéric Weinmann, au seuil, dans la collection Poétique, c'est déjà aussi dire un indice. Hein, c'est une collection où on s'intéresse à tous les aspects d'un livre. Donc il y a un titre, il y a une collection, il y a des guillemets. Je suis mort, entre guillemets. C'est un livre très surprenant sur ce que vous appelez la narration auto-thanatographique. C'est-à-dire, mais on va préciser bien sûr, mais par distinction d'avec l'autobiographie, un récit par quelqu'un, en un sens, de sa mort. Alors avant d'en venir là, et de ce que ça nous apprend sur le vivant aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené vous-même, professeur de littérature allemande, spécialiste de littérature comparée, qu'est-ce qui vous a amené à cet étrange sujet, et même à penser qu'il y avait un sujet, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à dire sur ces textes où des gens nous racontent ce qui leur arrive dans la mort. Je résume un peu vite, mais on va détailler.
Je vais essayer de développer un peu. Tout d'abord, je suis professeur d'allemand par contrainte institutionnelle, en quelque sorte. C'est-à-dire que mon domaine, c'est la littérature comparée. Et cet ouvrage est d'ailleurs le résultat d'une habilitation en littérature comparée. Et ça fait donc depuis 20 ans que je travaille sur des domaines qui ne sont pas que l'allemand.
Vous circulez entre les langues, les littératures, au pluriel.
Exactement, oui, tout à fait. Et dans mon principal domaine... À l'origine, c'est la traduction, et là, je m'avance dans un champ relativement neuf pour moi. L'étincelle originelle dont vous parlez, c'est, je dirais, une intuition qui n'est peut-être pas... Enfin, cette intuition elle-même était déclenchée, c'est peu surprenant sans doute pour un tel sujet, par le choc, la rencontre de la mort, c'est la mort de ma mère.
Ah, c'est par l'expérience personnelle que vous arrivez à
cette
question de la mort.
Je pense que le point... Enfin, j'ai... C'était pas une déduction logique, mais je pense que ça a été quelque chose qui m'a profondément bouleversé. Et je pense que c'est pas un hasard que petit à petit, enfin, j'ai eu l'intuition que quelque chose avait changé. Et ce dont je me souviens consciemment, c'est comme toujours comme un peu les souvenirs d'enfance. Hein, on a des souvenirs comme ça. C'est le premier livre que j'ai lu, c'est pas le meilleur, loin de là. On pourrait presque me reprocher d'en parler trop. C'est celui de Didier von Kovelhart, La vie interdite, qui doit dater de 93, d'après mes souvenirs.
Donc le premier livre que vous avez lu, vous voulez dire après ce deuil,
non, pas du tout. Où je me suis, en fait, où je commençais à penser à cette idée du paradoxe et où, un peu par hasard, je sais plus si j'ai trouvé le livre par hasard ou j'en ai entendu parler, et c'est le premier où j'ai lu consciemment en me disant, tiens, voilà, ce type de récit existe.
D'accord. Donc
voilà ce qu'on peut en faire.
Donc finalement, si je reprends le fil, alors pour le coup autobiographique récit.
Personnel,
mais biographique, avec une irruption de la mort et du deuil. Donc finalement, cet événement vous met en relation avec la mort et vous avez une sorte d'ouverture sur cette question. Et c'est là que vous tombez sur cet étrange type de récit. Alors rappelez-nous ce qui se passe dans celui-ci en particulier.
Dans celui-là.
C'est donc ça la chronologie, disons.
Oui, disons que j'ai l'impression dans mon souvenir que l'intuition était là avant. C'est-à-dire que c'était la première confirmation qu'effectivement ce type de récit existait et qu'il prenait une actualité particulière, pas du fait simplement de la mort de ma mère, mais du fait de l'époque. Il y a une espèce de résonance, en quelque sorte.
Justement, je pense qu'il y a, dans votre travail, dans ce livre fascinant sur les récits de, à la première ou à la troisième personne, mais en tout cas de la mort de quelqu'un par ce quelqu'un lui-même, il y a quelque chose de très spécifique, mais qui renvoie à l'époque. Mais vous auriez pu aller vers des récits de proches, des expériences de oui. deuil. Même il y a, par exemple, vous parlez beaucoup de Roland Barthes. Il y a un journal de deuil de Barthes, justement, après la mort de sa propre mère. Il y a l'expérience de la mort dans Proust, dans toute la grande littérature. Mais là, vous allez vers, justement vers quelque chose de très particulier. Donc, vous aviez aussi une oreille de spécialiste de littérature. Oui. Et tout à coup, c'est ce genre-là qui vous attire. Alors, peut-être racontez-nous d'abord ce texte-là, ce texte qui a joué le rôle de déclencheur.
Donc, comme je vous dis, il n'a pas joué le rôle de déclencheur. Il a été la première confirmation que cette espèce d'intuition mm-hmm. qu'il y avait quelque chose qui changeait dans le rapport à la mort se traduisait littérairement. Et donc, c'est un récit assez facile à lire. Hein. C'est de la grande littérature, faut être honnête. Mais on peut
c'est
reconnaître...
C'est pas forcément un défaut.
Non, c'est pas un défaut. Et justement, l'un des principes de mon travail en général et de ce livre en particulier a été de refuser de ne s'intéresser qu'à ce qu'on considère être des grandes œuvres, d'autant plus que pour l'époque contemporaine, c'est toujours assez difficile de juger ce qui restera dans 60 ou dans 100 ans. Et donc, de prendre tout et de voir qu'il y a vraiment un phénomène qui est majeur et qui n'est pas du tout ni quelque chose de trivial, ni inversement quelque chose de réservé à une certaine élite.
C'est pas non plus une curiosité littéraire.
Non, il y a vraiment quelque chose de profond. Et donc, Didier van Govelaert, imagine, lui avec une grande sensibilité, parce qu'il a été vraiment au pouls du temps, comme on peut dire, à vraiment tout de suite sentir que là, il y avait quelque chose. Donc, son récit commence par... C'est une des variantes, je ne sais plus...
Alors, je vais la citer, oui, si vous voulez, ouais. Frédéric Weimann, parce que dans votre livre, qui est composé de deux grands oui. chapitres, un chapitre qui remonte très loin dans l'histoire du récit de la mort, et puis un chapitre plus contemporain, entre les deux chapitres, il y a ce que vous appelez un corpus, et il y a des citations qui vont de 1881... à 2016, des citations de ces phrases paradoxes, de ces phrases presque contradictoires, et qui jalonnent cette littérature-là. Et je vais citer, puisque vous la cherchiez, page 137, donc la phrase que vous citez de Didier van Govelaert, La vie interdite, 1997, je cite, je ne sais pas si c'est la première phrase, vous nous direz. « Je suis mort à 7h du matin. Il est 8h28 sur l'écran du radio-réveil, et personne ne s'en est encore rendu compte. » Donc voilà une phrase d'auto-thanatographie, oui. Thanatos remplaçant bios. On peut en citer une ou deux autres, mais vous allez nous raconter van Govelaert dans un instant. J'aime beaucoup celle de Juan Goytisolo, 1991, un livre qui s'appelle Barzac. Au moment où je m'apprêtais à rédiger concrètement le livre, je mourus. Donc ce « je mourus », ce « je suis mort », ce « je suis mort à 7h du matin », c'est ça l'intuition dont vous êtes parti ?
Oui, voilà. C'est-à-dire que à partir de cette étincelle originelle, si je peux dire, à partir du moment où j'ai quitté le domaine de l'émotion pour entrer dans le domaine de la démonstration, dans le domaine, on va dire, universitaire, la question était de savoir comment est-ce que je pourrais démontrer ou est-ce qu'on peut démontrer qu'il y a vraiment une rupture.
À travers ce genre de texte.
Oui, à travers ce genre de texte. Donc évidemment, c'est un problème scientifique en sciences humaines majeur, parce que on peut pas faire une démonstration en disant oui c'est ça. On peut que essayer de chercher s'il y a des contre-exemples quelque part. Ce qui est un projet qui donc m'a pris une bonne quinzaine d'années. J'ai pas fait que ça, je vous rassure quand même, et qui a conduit à cette construction du livre que vous évoquez, c'est-à-dire deux parties qui sont très très différentes, l'une étant, je dirais, d'ordre historique et l'autre est une analyse plus narratologique. C'est évidemment ce qui intéressait Gérard Genette et qui justifie sa présence dans cette collection.
Qui dirigeait la collection poétique voilà. jusqu'à son décès.
Exactement.
Il y a peu, Gérard Genette, spécialiste de poétique, c'est-à-dire de sciences de la littérature,
exactement.
De manière d'écrire.
Et surtout de la manière dont on écrit des ouvrages, comment on raconte une histoire en particulier. C'est-à-dire qu'en fait, une partie qui est diachronique, une partie qui est synchronique. Le but de la première partie étant de rechercher s'il y avait avant notre époque ce type de récit, et si oui, sous quelle forme.
Et votre conclusion, me semble-t-il, c'est que, mais vous allez la préciser, c'est qu'il y a toujours eu, y compris dans les récits religieux, mystiques, des récits paradoxaux de cette expérience apparemment impossible à raconter qu'est la mort, mais que cette histoire longue n'est pas simplement continuée aujourd'hui, il y a une rupture, il y a une spécificité d'aujourd'hui.
Exactement, voilà. C'est-à-dire que d'une part, on peut, enfin je rappelle ou je précise que les plus anciens témoignages littéraires qu'on ait, alors en particulier le plus ancien récit, qui est donc Gilgamesh, dont on dit qu'il est descendu dans la mort, je montre que c'est pas vrai, mais en tout cas, le plus ancien récit connu de la littérature mondiale présente déjà ce sujet.
Et déjà un récit d'outre-tombe.
Exactement. Et la première tragédie grecque, les Perses, enfin pas la première, mais une des toutes premières, on a l'apparition d'un mort qui parle, et une des comédies grecques, les grenouilles, on a les morts qui parlent. Donc c'est vraiment un motif qui est originel et fondamental pour la littérature, ce qui ne nous surprend pas spécialement.
Ça ne vous surprend pas, Frédéric Weilmann, au sens où pour vous qui travaillez sur la littérature, j'allais dire comme telle, c'est l'une des fonctions même de l'écriture, de faire parler au-delà de la vie, de faire parler les morts
En tout cas, sans doute qu'une spécificité de l'écriture d'imagination, c'est de pouvoir dire des choses qu'on ne peut pas dire si on se contraint à parler de faits.
De manière utilitaire, pratique,
oui,
dans la vie.
Oui, d'analyser des faits, de vouloir poser. Voilà. Oui. Et donc, de ce fait-là, de parler des choses qui nous bouleversent, et aussi de chercher une façon d'en parler qu'on ne peut pas, qui peut pas être logique, c'est, je pense, oui, quand même une des grandes forces de l'art littéraire ou de la littérature.
En lien, donc, dans cette histoire longue, évidemment, Frédéric Weilmann, en un certain sens au début, avec le religieux qui prend en charge l'idée de la survie, l'idée d'une mystique, et donc, d'une certaine façon, il y a une croyance derrière ces littératures anciennes du récit d'outre-tombe. Enfin, il y a quand même, c'est appuyé sur des croyances communes, des croyances partagées. C'est une des différences avec ce « je suis mort » des écrivains autour de l'an 2000.
Bien, disons que, c'est en ça que il y a une partie narratologique qui est importante, que je pense assez compréhensible, pas aux spécialistes simplement. D'ailleurs, je suis pas un narratologue, mais
d'ailleurs,
quelque chose.
D'ailleurs, n'employons pas le mot narratologique, oui. Disons littéraire.
Voilà. Oui, mais disons narratologique parce qu'on parlait de Gérard Genette et que quand même c'est une contribution énorme de Gérard Genette, de nous apprendre à analyser des textes. Et donc, en fait, là, je remonte à une distinction qui est plus ancienne que lui, qui est la distinction, qui remonte en fait à Benveniste, à peu près à l'époque où je suis né, donc la fin des années 60, la distinction entre discours et histoire.
Il écrivait avant que vous soyez né.
Voilà,
il y a des gens qui écriront après votre mort.
Le discours
déborde la vie dans votre approche, Frédéric Weilmann.
Oui, disons que cette distinction entre le discours et l'histoire, qui maintenant, en fait, est plutôt présentée sous le terme discours et récit, hein, en particulier grâce à Genette, cette distinction-là me paraît fondamentale.
Est-ce que vous pourriez la rappeler, Frédéric Weilmann ?
C'est-à-dire que ce qui est vraiment... Je vais la rappeler à partir de l'exemple concret des autothanatographies. Ce que j'essaie de montrer dans la première partie, non seulement c'est de trouver des occurrences, des œuvres dans lesquelles ce motif apparaît, mais aussi de faire une espèce de classification, c'est-à-dire de montrer que à chaque fois que un des personnages dit je suis mort, ce n'est pas le narrateur, ce n'est pas celui qui parle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours entre guillemets.
Il y a un narrateur qui met dans la bouche d'un personnage.
Exactement. Il y a toujours.
Je suis mort.
Tout à fait.
Donc on le marque une distance finalement dans le récit. Il y a une sorte de distance
avec lui. Le récit n'est jamais pris ou attribué à quelqu'un qui est mort. Et ça, c'est selon moi une différence qui est fondamentale. On cite, on pense toujours ou assez vite à Poe quand on pense à sujet, puisque c'est un motif important chez lui.
Edgar Poe, avec un aspect de littérature fantastique aussi.
Bien sûr. Et évidemment, son récit sur la vérité sur le cas Valdemar, où il imagine que une personne meurt et qu'un scientifique et qui accepte juste avant de mourir d'être hypnotisé. Et en fait, le fait d'être sous hypnose bloque la mort jusqu'à ce que donc plus rien ne se passe et il n'y respire plus. Et puis au bout d'un certain temps, l'hypnotiseur décide de le réveiller et à ce moment-là, non seulement une odeur de putréfaction abominable envahit l'espace, mais en plus il se met à parler et dit « Je suis mort, je vous dis que je suis mort ».
Donc en fait, il dit qu'il est mort, mais il est encore capable de parler grâce à ce procédé à la fois médical et ici littéraire, d'une sorte d'hypnose et d'un,
voilà,
d'un dispositif très particulier.
Ça, c'est un des stratagèmes, il en a inventé plusieurs que j'ai évoqués, pour essayer de faire parler les morts. Mais en fait, il ne les fait jamais parler qu'à l'intérieur des guillemets, c'est-à-dire que c'est du... discours et non pas du récit. Le récit lui-même, c'est-à-dire son histoire à lui, est prise en charge par un narrateur qui, de l'extérieur, dit « voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai vu ». Ou alors, quand c'est effectivement le narrateur qui dit « je suis mort », en fait, il se... Ça, c'est un autre fréquent aussi dans la littérature fantastique, il y a un narrateur qui... C'est fréquent chez Poe.
Donc il y a ce procédé, Frédéric Weinmann, d'Edgar Poe, avec ce dispositif un peu médical qui rend la chose plausible, finalement. Il est plausible que quelqu'un nous parle alors qu'il a été mort. Parmi les autres procédés que vous évoquez, il y a des croyances religieuses. Pour y revenir un instant, Frédéric Weinmann, par exemple, tout simplement, l'idée qu'il y a une vie après la mort. C'est un des grands procédés qui permet de faire parler des morts dans l'histoire longue de la littérature. Où le mort nous parle, mais en fait, il a accédé à une autre vie.
Alors, c'est tout le premier chapitre que j'appelle Voyage dans l'au-delà, qui m'a non seulement coûté beaucoup de travail, mais qui m'a énormément appris, et où j'espère avoir démontré que, justement, quand dans des textes religieux ou mythologiques, des personnages disent qu'ils sont morts, ou ils sont de nature divine, où ils ne sont pas morts.
C'est ça. Et donc, par exemple, le Christ lui-même fait partie de votre corpus, si je peux me permettre, Frédéric Weinmann, c'est-à-dire que la résurrection et le récit que Chateaubriand, d'une autre façon, appellera d'outre-tombe, est vraiment une des premières étapes de cet étrange basculement du « je suis mort » à « je vous parle ». Je résume un peu sommairement.
Parce que c'est plus compliqué dans la mesure où, ce que je pense avoir montré, c'est que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on a quelques cas de résurrection, mais qui sont, on ne leur donne pas la parole, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une résurrection, mais ils ne disent pas « je suis mort ». Et elle a une fonction très claire, c'est de prouver le pouvoir du médiateur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours... Un porte-parole de Dieu qui est investi de ce pouvoir pour prouver qu'il est bien le porte-parole de Dieu. Et c'est ce que le Christ lui-même quand il ramène à la vie Lazare et qu'il explique ce n'est pas lui qui voulait, c'est le peuple qui voulait des preuves. Ces cas de résurrection sont à distinguer clairement de la résurrection du Christ lui-même, puisque d'une part, et c'est plutôt donc là, ça va dans le sens de ce que je voulais montrer, Christ est fils de Dieu, enfin il est de nature divine pour ne pas dire qu'il est Dieu lui-même. Et donc en fait, bien sûr qu'il peut lui avoir cette résurrection qui est la résurrection chrétienne, qui est une résurrection à la fin des temps.
Donc lui, Frédéric Weinmann, justement, il ne dit pas « je suis mort » avec tout ce paradoxe, cet énoncé apparemment impossible, qui suppose qu'on accepte quand même la réalité de la mort, de l'interruption radicale. Il dit plutôt « je suis vivant et j'ai vaincu la mort ».
Tout à fait. En fait, toutes les personnes, parce qu'ils sont revenus à la vie au moment où ils peuvent parler, et donc en l'occurrence, dans le cas de Christ, du Christ, c'est un cas tout à fait particulier du fait que il est, dans en tout cas la religion chrétienne, il est le seul pour l'instant à avoir accédé à cette vie qui sera la vie après la mort.
Mais alors il y a quand même Frédéric Weinmann, puisqu'on suit à peu près le mouvement de votre livre à grands pas, un peu vite, mais dans votre chapitre 4 qui est encore dans la première partie, vous évoquez des narrateurs morts avec déjà ces phrases paradoxales, par exemple Machado de Assis, grand écrivain latino-américain, 1881, il autorise, dites-vous, un mort à écrire « J'ai rendu le dernier soupir à 2h de l'après-midi ». Mais là, on est encore dans les guillemets, c'est-à-dire que l'écrivain se distingue de son personnage. C'est pas encore l'écrivain qui dit « je suis mort ».
Si. Alors là, on revient. Donc
on s'approche du sujet.
On s'approche, c'est-à-dire qu'on revient à votre question initiale et à ma démonstration et à mon intuition que c'était complètement neuf. Évidemment, quand j'ai découvert ce récit que je ne peux que recommander, qui est l'un des meilleurs ouvrages de tout le corpus.
Pour vous, c'est le point de départ, Frédéric Weimann, c'est le tout premier.
C'est le premier que j'ai trouvé. D'accord. C'est le premier que j'ai trouvé. C'est Joaquim Maria Machado de Assis, donc qui est un très grand écrivain brésilien. Cet ouvrage s'appelle Mémoire posthume de Brás Cubas.
Oui, j'insiste sur posthume.
Oui,
Mémoire posthume de voilà. Brás Cubas.
Et là, quand je l'ai lu, non seulement j'y ai pris un plaisir fou, mais j'ai été extrêmement embêté quand j'ai constaté qu'il ne s'agissait pas d'un cas supplémentaire de littérature fantastique comme on en a au 19e siècle. C'est un ouvrage de 1881.
Donc c'est le point de bascule pour vous.
Voilà, ça a été un grand moment d'atermoiement dans toute cette recherche. Il s'agissait de savoir est-ce que je me trompais, est-ce que je devais en fait renoncer à l'intuition et à l'idée, ou est-ce que je pouvais y apporter une réponse.
Mais on va savoir votre réponse dans un instant, Frédéric Weimann, parce que ça nous introduit à qu'en est-il de la mort et du vivant aujourd'hui? Qu'en est-il du posthume et de la survie pour nous au XXIe siècle depuis 1881? Mais auparavant, on va écouter un morceau de musique qui pose d'une autre façon la même question, puisqu'il s'agit de la ballade pour ma mort.
Sarà verso il mattino, guarderò stancamente a quello che c'è in me, le mie povere storie, le lacrime, le bugie, la mia musica, i libri, le mie perplessità. Dall'alba la testa fra le mani, sul penultimo whisky rinunciato a metà, per avanti cantando la morte innamorata, e in quel momento in punto suoneranno le sei. Oggi penso a quando me ne andrò, verso il nulla in ansia cerco te, te che come sempre calmerai questa indifferenza che c'è in me. Abbracciami forte, perché sento che la morte sta credendo ciò che amo più di me.
France Culture, Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, quelle nouvelle du vivant, toujours dans notre rencontre avec Frédéric Weimann, spécialiste de littérature comparée, qui nous donne des nouvelles du vivant en faisant parler les morts, puisqu'il étudie le récit auto-thanatographique et sa spécificité contemporaine, tous ces romans qui bizarrement convergent sur ce paradoxe de faire parler celui qui écrit de sa propre mort, je suis mort. Mais il y a eu cette chanson, Frédéric Weimann, que vous venez de nous faire écouter, cette ballade pour ma mort, cette fois-ci en italien, avec aussi Astor Piazzolla. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette musique se relie au texte dont nous allons parler?
Mais je l'ai choisi d'abord parce que j'adore Milva et que j'adore l'étendue de sa voix, et je pense que la variété aussi de son répertoire, tout à fait décomplexée, elle passe de chansons populaires à des choses extraordinaires, et puis aussi la multiplicité des langues dans laquelle elle chante, tout ça me fascine.
Elle peut chanter dans combien de langues comme vous en littérature comparée?
Elle a percé grâce à ses interprétations de Milord, de Piaf, voilà, excusez-moi. Et puis moi, je l'ai découvert par le biais de l'allemand, c'est-à-dire la chanson de Brecht, elle chante très très bien en allemand. avec un petit accent bien sûr, mais vraiment les interprétations de Brecht et qu'elle fait sont absolument extraordinaires.
Et là donc Balade
pour maman. Et là un autre, il y a un autre donc CD que j'ai depuis très longtemps qui est tout un concert qu'elle a donné avec Piazzolla. Et c'est du coup cette chanson-là à laquelle j'ai pensé, qui à l'origine est en espagnol, qu'elle chante en italien. Et le point de, comment dire, ce qui me retenait, c'est le moment où à la fin du refrain, si je peux dire, elle dit donc que je serai mort quand sonneront les 6 heures. Et donc en fait, on a là un motif, puisque donc c'est tiré d'un opéra que Piazzolla a composé avec le poète Horacio Ferrer, qui s'appelle Maria de Buenos Aires, et en fait ça raconte le parcours d'une chanteuse, son ascension, son moment de gloire, la chute, elle meurt et elle renaît.
Elle meurt, elle renaît.
Voilà, et donc il y a ici, dans le passage qu'on entend, elle va mourir, mais après finalement elle va revenir. Donc on est sur un des motifs fréquents, puisqu'on parlait avant d'écouter cette chanson, vous m'avez posé... Frédéric Worms, cette question de des types de récits qui existaient avant aujourd'hui. Donc en fait, il y a toujours
là on est plus dans un récit classique de renaissance, de résurrection.
Il y a différents trucs en quelque sorte pour faire dire à quelqu'un je suis mort. On a donc toutes les visions. Ça c'est tout mon premier chapitre. Alors ça c'est dans la mythologie,
l'expérience de la traversée de la mort.
Voilà. Et donc tous les personnages qu'on pense à Ulysse, qu'on pense à qui on dit sont descendus aux enfers, c'est faux. En réalité, ils ont des visions. Dante, c'est une énorme vision. Dante n'est évidemment jamais mort. Et donc, il s'inscrit dans une très longue tradition que j'ai essayé de reconstituer et qui aboutit, en fait, au moment où à partir de la Renaissance, où on ne la prend plus vraiment au sérieux, on a des visions qui sont satiriques.
D'accord.
Et ensuite, un deuxième truc, c'est les faux morts. C'est-à-dire ce que j'appelle les morts apparentes, mais c'est pas moi qui ai inventé cette expression. Faux morts, c'est plutôt une expression. Alors, un exemple bien connu, c'est le colonel Chabert.
Qu'on laisse pour mort, et qui en fait ne l'est pas.
Je l'ai évoqué, mais il n'est pas une autobiothanatographie à proprement parler, puisque c'est dans un récit à la troisième personne. Mais donc, on a peau, on a toutes ces choses-là. Et alors, beaucoup de gens, en fait, qui disent, je vais mourir, ça, c'est aussi cette.
Mais alors, venons-en, puisque, il faut arriver à l'essentiel et à votre thèse, en quoi elle rejoint aussi notre expérience contemporaine de la vie, Frédéric Weimann. Aujourd'hui, donc, il y a un genre particulier qui ne spécule pas sur l'après, après la mort, sur la fausse mort, mais qui assume un auteur qui dit « je suis mort ». C'est ce que vous appelez l'autothanatographie. Est-ce que vous pouvez décrire ces caractéristiques spécifiques?
Alors, cette chose particulière, ce phénomène particulier ou propre à notre époque, qui était mon intuition de départ et que j'ai, comment dire, craint de perdre en découvrant De Assis, Machado de Assis, et en plus, peu de temps après, une thèse qui, elle encore, je suis désolé, est parue l'année de ma naissance, donc qui est une thèse que j'ai eu beaucoup de mal à trouver.
Aujourd'hui, le vivant est partout.
Voilà,
même les chercheurs les plus sérieux, les scientifiques sont des êtres vivants avec une date de naissance et le plus tard possible une date de mort, mais entre les deux, un rapport à la vie.
Il y a un rapport constant. Et donc, en tout cas, c'est une thèse qui date des années 60 aux États-Unis, en fait, dont j'ai réussi à trouver un microfilm dans une bibliothèque à Regensburg, et donc en Allemagne, que j'ai fait venir, que j'ai pu lire. Et alors là, ça a encore complété. Donc ça a d'abord accru mon désarroi, et ensuite ça m'a finalement déclenché, apporté une réponse. C'est que cette chercheuse a trouvé plusieurs récits qu'elle n'appelle pas autothanatographiques, mais qu'elle conçoit comme tels, et où, qui sont tous des récits d'Amérique du Sud.
Des récits donc qui convergent sur cette question précise.
Où, en fait, elle dit, avec un manque de rigueur que je n'ai essayé de ne pas imiter, elle dit que, en fait, le narrateur est mort. Mmh. Et en fait, ça a été pour moi là le moment où j'ai repris confiance et où je me suis dit, alors peut-être la réponse est là. Il y avait quand même quelque chose d'étonnant dans le fait que ce soit tous des récits d'Amérique latine et que, par exemple, si vous regardez en Europe, un auteur comme Kafka, qui a pourtant approché ce sujet-là...
Il n'est jamais allé jusque-là.
Il n'a jamais... Il est même fait plus. Dorit Cohn, qui est une autre narratologue, un grand nom de ce type d'études... à montrer dans la transparence, enfin signaler dans la transparence intérieure, c'est que Kafka avait commencé un de ses romans à la première personne et comme son personnage était censé mourir, il est passé à la troisième personne parce qu'il ne même Kafka ne concevait
même Kafka
pas.
N'est pas voilà, allé jusque-là.
Tolstoï non plus, bien entendu. C'est-à-dire, et c'est ce que dit Dorit Cohn, il y a une espèce d'interdit. Enfin, elle ne dit pas ce mot-là, mais c'est pas possible parce qu'on rompt le pacte de la vraisemblance.
Alors, je vais vous poser une question, Frédéric Weimann, qui va vous sembler un raccourci, parce que votre livre est très détaillé et fascinant par les exemples précis, mais tout de suite un raccourci. Dans votre conclusion, vous dites que cette présence de l'autothanatographie, du récit par quelqu'un de sa mort, vient compenser quelque chose comme une acceptation de la mort. On n'est plus dans la religion, on n'est plus dans la fiction qui donne du plausible, mais vraiment dans la mort, mais par une sorte de ce que vous appelez, en citant une de vos lectures, un de vos corpus, et la coprésence d'une laïcité officielle et d'un merveilleux clandestin. C'est-à-dire, au fond, on accepte la mort, mais malgré tout, il faut lui donner vie, j'allais dire, lui donner la parole. Est-ce qu'en Amérique latine, c'est ce merveilleux, cette sorte de présence du merveilleux dans une vie en même temps très dure, avec des morts bien réelles, qui expliquerait que ce soit là que c'est né et qu'aujourd'hui, dans notre société où la mort est conçue comme un fait irréductible, malgré tout, on a besoin de cette parole mystérieuse?
Tout à fait. C'est ça que j'ai cru être la solution ou la réponse à la
question. Ça me semble très
profond,
à mon avis, c'est très intéressant.
Le fait que il faut, donc ça c'est un autre de mes prochains projets, continuer à travailler sur le réalisme magique. Ou réalisme merveilleux, c'est pas tout à fait les mêmes choses, mais je donne les références dans le livre pour ceux que ça intéresserait. Il y a le fait qu'on a la survivance de l'animisme, ou bien par le biais du vaudou, ou dans les sociétés précolombiennes. Et en fait, quand on prend le cas de Machado de Assis, qui était brésilien, c'est-à-dire qu'il avait une mère, je crois que c'était sa mère qui était portugaise, mais donc il avait ce mélange de cultures, il y a cette culture tout à fait différente de la culture occidentale, qui selon moi explique qu'ils ont beaucoup plus tôt que les Occidentaux et les Américains du Nord pu briser ce tabou, qui ne sera, selon moi, commencera à ne s'ébranler que quand ce réalisme magique va gagner d'autres continents. Et l'un des exemples les plus importants, selon moi, c'est Muriel Spark, donc dans les années 50, qui d'abord commencé une œuvre surtout de la poésie, enfin que de la poésie, et puis qui, quand elle s'est convertie au catholicisme, est passée à la prose, et là a eu, dans des courts récits, pour la première fois, me semble-t-il, vraiment des récits autothanatographiques. Il y a la fille que j'ai laissée derrière moi de 57, qui est extraordinaire, qui est un récit de 3 pages, où elle raconte comment une dame rentre chez elle dans le bus, elle a l'impression d'avoir oublié quelque chose au bureau, et vraiment ça la taraude trop, et elle finit par revenir, et là,
c'est son propre corps.
Voilà. Étranglé par la cravate de son patron.
Elle a oublié son propre corps étranglé. Ouais. Alors, dans votre florilège de citations paradoxales, il y a 2 citations de Muriel Spark, celle que vous venez d'évoquer de 1957, et visiblement elle y revient, parce qu'en 1958, vous citez une nouvelle, je pense, La rue de Portobello, et la phrase que vous citez est la suivante: « Je dois expliquer que j'ai quitté cette vie il y aura bientôt 5 ans ». Et c'est la personne qui parle. Alors, Frédéric Weimann, je reviens quand même à votre thèse d'ensemble.
Oui.
Dans votre conclusion, il y a 2 hypothèses, finalement, et qui ne sont pas tout à fait les mêmes. D'un côté, il y a ce retour du merveilleux, du magique, et peut-être quand même du religieux, un peu au sens où l'anthropologue Philippe Descola nous dit qu'on n'arrive plus à vivre avec le dualisme occidental, avec l'idée qu'il y a un corps et une âme, mais il faut que le merveilleux soit là, l'animisme, etc. Et d'un autre côté, peut-être parce que vous êtes spécialiste de littérature, vous nous dites aussi que ces récits autothanatographiques qui font parler un mort sont aussi pris dans un discours collectif, une sorte d'état des lieux l'écrire contemporain. Et là, on n'est plus dans le religieux, mais on est dans l'analyse du discours. Alors, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est la magie ou la littérature ?
Ce sont deux aspects, en fait, d'une même affirmation.
Pour vous, c'est la même thèse,
en fait.
Tout à fait.
Ah oui. C'est-à-dire que ce que tendrait à prouver cette prolifération, alors relative, on est bien d'accord.
Ah, quand même, pour, votre corpus, votre bibliographie, on se dit, mais quand même, tous ces écrivains qui disent « je suis mort », ça...
Voilà, et en fait, elle est d'autant plus, significative que j'ai... pour ce sujet-là, décider justement pour arriver à faire ressortir plus précisément certains faits, décider de prendre l'expression que je n'ai pas inventée, je la tire de Derrida, enfin il y a plusieurs... c'est quand même Derrida qui a le plus parlé de ce sujet ou qui l'a inventé le concept, on peut dire... Je l'ai pris dans un sens le plus strict possible.
C'est-à-dire,
je voulais que non seulement il y ait une formule équivalente à je suis mort, donc ça peut prendre différentes variantes, je viens de mourir de la vérole, ou enfin, en tout cas, il y a une phrase qui signifie cela.
Qui à un moment dit quelque chose
comme « je suis mort ». Et qui à aucun moment n'est contredit par un truc quelconque. C'est-à-dire que c'est bien le narrateur au premier niveau qui est mort au moment de l'écriture.
Donc ça, soyons précis, Frédéric Weimann, c'est le critère de votre enquête. C'est-à-dire, vous appelez autothanatographie, par définition, tous les récits où intervient cet énoncé apparemment impossible et
oui,
sans trucage,
voilà.
Je suis mort.
Donc, non seulement je l'appelle comme ça, mais disons qu'en tout cas, pour cet ouvrage-ci, j'ai voulu me limiter au sens vraiment strict, mais tout en ayant bien conscience qu'on peut l'entendre dans un sens un peu plus large, et à ce moment-là, le nombre de citations que je pourrais donner n'est pas celui que j'ai. Ça serait bien plus important parce que, comme vous le disiez, ça fait partie d'un courant extrêmement important. Si on prend la littérature pour enfants, depuis 20-30 ans, c'est quelque chose de fondamental et j'aurais sans doute pas été capable seul de pouvoir traiter l'immensité de ce territoire.
C'est-à-dire cette présence des morts vivants ou des morts parlants.
Voilà,
des...
tout à fait. Donc la citation que vous donniez tout à l'heure, c'est tiré d'un ouvrage d'Isabelle Casta qui s'appelle Les Nouvelles Mythologies de la Mort. Et donc elle a plus abordé ces différents, ce qu'on voit dans les films. Enfin, elle a fait un premier sondage dans cet ouvrage. Et donc moi je voulais le maintenir au sens strict pour vraiment montrer l'importance de cette coupure qui, à mon avis, date du milieu des années 80.
Il se passe quelque chose de très précis pour vous avec cette contradiction très précise aussi. Frédéric Weimann, vous citiez Jacques Derrida. Je pense qu'en effet, c'est celui qui a dit, voilà, en principe, l'énoncé « je suis mort » est impossible dans le langage, puisque celui qui le dit... ne peut pas le faire, ne peut pas le dire. C'est comme je mens. C'est un paradoxe du langage. En principe, en fait, pour Derrida, c'est plutôt la vérité du langage. Ce que le langage permet, au-delà de raconter une présence supposée évidente, il permet du paradoxe, il permet de la trace, il permet de faire parler la mort et même il nous plonge dans l'élément de l'écriture, de la trace, du reste, du posthume. Derrida, d'ailleurs, disait, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, je posthume comme je respire.
Bon, celle-là, je la connaissais pas encore.
Elle est pas mal, quand même.
Très bien. Mais il y en a beaucoup, quand même.
Dès que je respire, je laisse je suis en train de mourir et de survivre. Je posthume comme je respire. Est-ce que c'est ça votre paradoxe aussi?
Et disons que sur Derrida, j'ai essayé d'exposer le plus clairement possible au tout début de l'ouvrage, effectivement, cette pas querelle, mais cette discussion entre Barthes et Derrida, et à partir de laquelle, et qui date des années 60-70. Donc, en fait, avant cette rupture. Ce qui me semble apparaître avec cette enquête, c'est que on voit à partir de ma définition stricte que le tournant c'est clairement les années 80.
Et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que ça nous dit sur notre monde?
Mais je pense que ce que ça nous dit, vous en parlez vous-même, par exemple, Frédéric Worms, dans Le Moment du Vivant, où vous rappelez que vous datez de 1983, vous mettez en parallèle L'Homme neuronal de Jean-Pierre Changeux et le dernier tome de l'histoire de la sexualité de Foucault, en disant là il y a quelque chose qui change.
Le vivant apparaît partout.
Exactement. Et moi donc du coup je le traite évidemment pas du tout en philosophe, plus en analyse littéraire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, du moins si j'ai raison, au niveau de la production littéraire, donc artistique, cette rupture est confirmée. Il y a quelque chose qui se passe au milieu des années 80. On le voit avec certains titres qui sont des titres importants, comme en particulier Dominique Rollin. Enfin, il y a deux titres qui sont Dominique Rollin, Gaston Compère et Goïti Solo, dont vous parliez. Donc, on est autour des années 80-90. Là, on a des écrivains majeurs qui, en fait, c'est très clair, par exemple, pour Rollin et Goïti Solo, qui, en fait, ont fait un premier... Parlons de Rollin, par exemple, qui parle sa vie à part affaire.
Vous êtes sévère, d'ailleurs, à un moment.
Oui, je suis très sévère.
Vous dites
oui.
qu'elle intellectualise, elle n'est pas dans... Vous dites à un moment que bon, c'est une intellectuelle parisienne qui se saisit, mais en même
je
temps, vous leur dites que c'est important.
Mais
vous dites que c'est important parce que, justement, elle se saisit d'un phénomène, c'est la vie et la mort qui entrent dans la littérature. Fait. Là, c'est un peu solennel et un peu théorisé, donc pour vous, elle n'est peut-être pas assez dans l'écriture.
J'avoue, et je ne peux
vous
pas
avez
le cacher.
Droit, hein, c'est un livre très fort, justement, qui est pour
voilà,
ça aussi.
C'est un livre, en
non,
fait.
Non, mais je veux dire, votre livre.
Justement,
vous vous engagez quand même.
La Voyageuse est un livre fort aussi. J'avoue que cet égocentrisme totalement assumé a été très pénible. D'autant plus qu'il vient après d'autres réflexions sur le même sujet, et on pourrait dire qu'il n'y a que ce sujet. En même temps, il faut reconnaître une extrême et intelligence et lucidité. Vous me direz, autant de recherches auto-centrées pour pas finir par être lucide, ça serait dommage. Mais voilà, donc il y a cet aspect-là qu'on ne peut pas, enfin qui m'a gêné. Mais c'est moi qui ne peux pas nier que on est évidemment là à un moment très fort, comme en fait confirmé par Goïti Solo, qui dans un premier récit, en fait, approche ce sujet, n'ose pas aller jusqu'à l'autofiction, et dans ce qui, donc La Quarantaine, c'est le titre. En espagnol, pas en espagnol, mais la traduction littérale du titre espagnol qui a été traduit par Barzac, parce qu'on sans doute on devait craindre chez certains, enfin à Paris, qu'il y ait des confusions.
Sur la quarantaine.
Voilà, sur la quarantaine.
Ça a un double sens en français.
Ouais. Exactement. Mais ça là aussi en espagnol. Et donc d'accord. En fait, là il y a. Je tombe dans mon sujet de prédilection, la traductologie, qui
mais
n'est
oui,
pas le sujet
si
de ce
vous
soir.
Êtes en littérature comparée, Frédéric Weinmann, alors malheureusement, ça, notre discussion va très vite, mais dans. Ces années, donc de 1980 jusqu'à nous, pour vous, finalement, la littérature, parce qu'elle se saisit du vivant, doit aller jusqu'à se saisir de la mort, sans la masquer, mais en même temps avec cette question un peu magique de, que la littérature survit à la mort, être capable de parler un peu au-delà de la mort que pourtant elle constate.
En tout cas, je pense qu'elle participe d'une transformation profonde de notre sensibilité, ou en tout cas de la conception qu'on peut avoir de la vie et de la mort. J'ai essayé d'être aussi peu jargonneux que possible, même si le titre, ne serait-ce que l'autothanatographie, peut donner l'impression inverse. De même, en fait, j'ai introduit dans la conclusion quelque chose, enfin un terme qui est un terme qui paraît compliqué, a priori celui d'épistémé, que bien entendu j'emprunte à Foucault. Bon, je le fais très prudemment puisque je me sens peu qualifié ou pas du tout qualifié pour ça, mais j'ai quand même assuré mes arrières. C'est un terme aussi auquel j'ai beaucoup réfléchi parce que le terme de paradigme.
Disons que pour vous, épistémé, paradigme, ça veut dire au fond le sens général de l'époque que nous vivons à travers les corpus, à travers des textes et des expériences de savoir.
Et de ce qu'on peut dire sur...
Et alors, quel est le sens de notre époque, d'après vous, d'après la thanatographie? Est-ce que c'est un sens mortel ou vital, Frédéric Weinmann?
C'est vital, c'est une négation de la mort en tant que quelque chose qui serait une seconde vie.
Et donc c'est une affirmation de cette vie-ci.
C'est une affirmation de cette vie-ci que les auteurs, je ne parle pas des les narrateurs souvent, et les auteurs sans doute n'admettent pas, c'est-à-dire je ne suis pas bien sûr qu'ils aient conscience de ce que dit vraiment leur texte.
C'est grâce à vous qu'on en prendra conscience. Merci beaucoup, Frédéric Weinmann.
Merci beaucoup, Frédéric.
Matière à penser, c'était notre quatrième rencontre pour avoir des nouvelles du vivant. Et ce soir, des nouvelles depuis la mort, depuis l'écriture de la mort, grâce à Frédéric Weinmann, avec aussi Cédric Chatelus, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms, qui vous donne rendez-vous demain avec Roland Cher et vous dit bonsoir.
semblable à toi-même. Pauvre con, voici les orgues qui remettent ça. Faut que je t'apprenne par cœur cette terre-là, que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem. Regarde, tu n'apprécies pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?